With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Salut Rokaya.
Salut Grace.
Salut les auditrices.
Vous trouverez la suite de Kif Taras et les nouveaux épisodes à écouter sur votre plateforme habituelle de podcast.
Faites simplement une nouvelle recherche avec le titre Kif Taras chez Pseudo Radio et abonnez-vous à ce fil.
Bien sûr, les quatre premières saisons des épisodes de Kif Taras resteront toujours disponibles chez Binge Audio.
Merci pour votre écoute précieuse
et à bientôt.
Une production Binge Audio, évidemment.
Bonjour Rokaya.
Bonjour Grace.
Bienvenue dans ce nouvel épisode de Kif Taras, le podcast qui saute à pieds joints dans les questions raciales.
Comme vous le savez, on parle ici sans complexe d'arabes, d'asiatiques, de roms, de noirs, de blancs.
Et dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons nous pencher sur l'articulation entre la race et la classe sociale. Ce sont deux réalités qui sont rarement pensées ensemble et souvent exclusives l'une de l'autre. En France, nous sommes familières avec le rejet total de la race et plutôt enclines à le remplacer par le clivage de la classe. Comme si le racisme était l'apanage des pauvres, comme si l'ignorance donnait seule naissance au mépris culturel, comme si l'éducation était l'unique outil pour réduire à néant les mécanismes de domination raciale. Or, il n'en est rien car le caractère systémique du racisme, c'est-à-dire qu'il imprègne tous les domaines de la vie des personnes non blanches, signifie qu'il affecte aussi de façon distincte toutes les couches de notre société. Nous verrons comment la race n'efface pas la classe.
Et pour en parler, nous avons invité Isabelle Bonny-Clavry pour partager son expertise et son point de vue. Isabelle, tu es... Déjà, bonjour.
Bonjour, Rokaya. Bonjour,
Merci
Grace.
Merci d'être parmi nous.
Ça me fait plaisir.
Alors, tu es réalisatrice, scénariste et autrice, notamment du livre « Trop noire pour être française » qui est paru aux éditions Taillandier en 2017 et le film éponyme documentaire qui a été diffusé sur Arte en 2015.
C'est bien ça. Ouais.
Jusqu'ici, tout va bien.
Dans Kif Taras, pour commencer, on aime bien se situer, parce qu'on va parler de questions raciales, et du coup, on demande à nos invités si elles se situent, comment elles se situent. Par exemple, Rokaya est perçue comme une femme noire, et moi, je suis perçue comme une femme asiatique. Est-ce que toi, Isabelle, c'est quelque chose qui t'a traversée?
Oui, bien sûr, puisque c'est le regard qu'on te renvoie et l'identité première qu'on te donne. Donc, je suis perçue comme une femme noire. Je me sens être une femme noire et bien évidemment, je ne peux pas être réduite uniquement au fait d'être une femme noire. Et donc, mon identité embrasse aussi plein d'autres éléments.
Dont on va parler.
Et est-ce qu'il y a eu un moment dans ta vie qui t'a fait réaliser que cette perception était celle-ci? Je pense notamment à une anecdote que tu relates dans ton travail, cette crèche de primaire à Paris. Est-ce que tu peux nous la raconter?
J'étais enfant, j'étais dans une école catholique et donc chaque année, en fin d'année, il y avait la crèche vivante. Et donc moi j'avais envie d'être Marie, quoi. Je voulais être la star du show.
Normal.
Ah, voilà, bah, tant qu'à faire. Et on m'a dit non, toi tu vas faire Balthazar, le roi mage venu d'Afrique, puisque bon, bah, il n'y a pas d'autres élèves noirs. Et je l'ai très mal vécu parce que je ne voyais pas pourquoi. En tant que fille, je devais aller jouer un rôle de garçon. Et c'est la première fois où j'ai compris qu'effectivement, ma couleur de peau primait sur les autres, mes autres facteurs d'identité.
Et du coup, on va commencer directement pour explorer justement cette identité complexe que tu défends dans ton travail. Donc Isabelle, tu n'es pas immigrée, ni fille d'immigrée, tu es née française, de parents français, et tu fais partie de ce que les instituts démographiques appellent la population majoritaire. Et pourtant, enfin en tout cas sur le papier, hein. Et pourtant, cette question d'où viens-tu, mais comment se fait-il que tu n'aies pas d'accent, sont des phrases qu'on t'a souvent servies, la plupart du temps sans mauvaise intention évidemment, entre guillemets, hein. Mais dans ton travail, Trop noir pour être française, tu mets le doigt sur un impensé. Il y a des Français majoritaires, Français même de souche, hein, puisque c'est l'appellation raciste qui a été composée par l'extrême droite française avant de devenir un peu plus mainstream. Eh bien, il y a des Français majoritaires qui sont noirs. Hein, et comment tu vis cet aspect de l'identité française ?
C'est vrai que c'est quelque chose qu'on a du mal à percevoir, notamment toutes les personnes métisses, mais aussi toutes les personnes ultramarines qui, effectivement, peuvent être considérées comme des Français de souche, mais qui sont toujours renvoyées à une extranéité du fait de leur couleur de peau. Alors, c'est vrai que c'est souvent très désagréable, parce que c'est comme si on voulait vous obliger à vous justifier. Je sais que, par exemple, moi, avec une couleur de peau assez foncée, on ne me perçoit pas comme métissée. Donc, du coup, on me renvoyait le fait de pourquoi cette fille dit qu'elle est française alors que de toute évidence, elle est africaine, elle a un complexe, elle a des problèmes. voilà. Donc, et je n'ai pas envie et je n'ai pas à dérouler mon... Voilà.
Ton arbre généalogique.
voilà, à chaque fois que je rencontre quelqu'un. D'autant plus, c'est vrai que le petit twist, c'est que je suis née française. Je suis née ivoirienne, donc je suis binationale. Mais si on prend la partie française, je suis née française à l'étranger. Donc effectivement, c'est très difficile pour les gens sont dans des catégories. Alors il y a les enfants d'immigrés, il y a les immigrés, il y a les enfants d'immigrés qui sont nés en France. Ils ont du mal à voir effectivement, à se dire tiens, il y a tout simplement des Français noirs. Et cette évolution, elle est indispensable. Et il va falloir de plus en plus la faire. Il y a des Français noirs, il y a des Français arabes, il y a des Français asiatiques. Et qu'on arrête à chaque fois de toujours vouloir nous rattacher à un passé d'immigration. Et ce qui est toujours une manière aussi de nous dire, oui, tu es un peu étranger. Et c'est de moins en moins légitime parce que les générations passent. Et donc aujourd'hui, on a affaire à des Français, c'est tout.
D'autant plus que, du fait de l'histoire coloniale, il y a plein de personnes qu'on qualifie d'enfants d'immigrés, mais dont les parents, en fait, sont nés sous le régime colonial français. Puisque le code de l'indigénat a été dessiné en 1881 pour l'Algérie et 1886 pour le reste des colonies françaises. Donc on a même des Français aujourd'hui d'origine étrangère qui n'ont pas d'ascendant forcément blanc, mais dont les parents, les grands-parents sont nés en ayant la citoyenneté française. Et ça, c'est quelque chose qu'on oublie. Donc c'est vrai que l'expansion coloniale française a créé de fait une citoyenneté française très ancienne pour beaucoup de personnes et plus ancienne que pour beaucoup de personnes françaises blanches qui sont d'origine européenne. Mais c'est quelque chose qui est complètement invisibilisé par les discours publics.
Oui, je pense qu'il y a une très grande, tout simplement, méconnaissance de l'histoire française, de l'histoire coloniale française et aussi de l'histoire ultramarine. Ce que je me dis, c'est effectivement très désagréable en tant qu'ultramarin d'être toujours renvoyé à un présupposé d'identité africaine, au fait que effectivement ils seraient immigrés, alors que voilà, ils n'ont pas à justifier de leur françaisité.
C'est ce que vous racontez Audrey Célestine quand on l'a invitée ici, justement, qui a écrit un livre qui s'appelle Une famille française, dont la famille originaire justement des Antilles françaises, et elle racontait que sa propre mère avait fini par être victime de racisme par des personnes qui étaient d'origine portugaise, je crois, je ne sais plus, en cas originaire d'un pays européen, et qui était arrivée, en fait, devant sa mère, et qui finalement avait fini par retourner le préjugé raciste contre une personne qui était, elle, française depuis plusieurs générations.
Et ton grand-père, d'ailleurs, tu en parles dans ton documentaire, ton grand-père Alphonse Bonny, qui est né en Côte d'Ivoire, c'était des hommes libres, c'était des personnes libres, et ils sont devenus indigènes. Et ça aussi, ça raconte beaucoup de la question coloniale. Et tu dis de lui, donc je trouve que c'est un parcours qui... ça a été un parcours exceptionnel pour l'époque. Il venait d'une famille de dirigeants politiques ivoiriens. Il a fait ses études en France. Puis, il s'est marié en 1937 avec ta grand-mère, Blanche, à l'époque des eaux humains et des expositions coloniales. Donc, c'est vraiment à cette époque-là, puisque c'était 1931.
Ouais.
Et donc, ce mariage, tu en parles dans ton documentaire. Est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que les gens l'avaient accepté à l'époque ?
Alors, ça dépend qui et où. Ce qu'il faut comprendre, alors, en Afrique, on disait pas, en tout cas, dirigeant politique. C'était une famille de chefs. Donc, c'était effectivement le pouvoir, la noblesse telle qu'elle était conçue à l'époque, donc là en Côte d'Ivoire, chez les Akans. Et effectivement, le colon arrive, il tente de résister, il n'y arrive pas, il perd tout pouvoir. Donc c'est un séisme. Ce sont des gens qui, effectivement, depuis des centaines d'années, c'était eux, en fait, qui dirigeaient cette région-là, qui administraient la justice, etc. Et tout d'un coup, effectivement, ils perdent toute forme de liberté. Et je pense qu'assez rapidement, ils ont compris qu'il fallait s'adapter à ce nouveau pouvoir. Et ils ont eu effectivement cette idée, ce courage de rassembler leurs économies et d'envoyer un des leurs à leurs frais étudier en France, avec cette idée qu'il fallait à la fois comprendre la culture de l'envahisseur et aussi arriver à conquérir du pouvoir selon les nouvelles règles du jeu pour ensuite revenir et protéger la famille, le clan, avec la nouvelle donne. Donc après, effectivement, c'est tombé sur mon grand-père parce qu'il était bon élève. Il a eu le courage comme ça de partir à 15 ans, pendant 15 ans, où il n'a jamais remis les pieds en Côte d'Ivoire parce que ça coûtait trop cher. Déjà, il fallait déjà payer ses études, payer ses frais de séjour. Donc il n'y avait pas d'argent pour lui payer de la traversée en bateau pour revenir en vacances. Donc il n'a pas vu sa famille, il n'a pas parlé sa langue natale pendant 15 ans. Et de façon très logique, quand il a épousé une fille du cru, donc une Française blanche, qui elle, de son côté, a eu l'indépendance d'esprit, le courage de suivre l'inclinaison de son cœur et d'épouser un homme noir contre sa famille, qui a fini par l'accepter. Et donc, si on en revient à ta question, c'est qui regarde et où le plus difficile, les gens qui ont le plus mal perçu ce mariage mixte, ce sont les Français blancs et notamment en Afrique, dans le système colonial. Parce que ils sont retournés vivre en Afrique. Mon grand-père voulait vivre en Afrique, donc il a fait sa carrière. Alors, il était africain, mais citoyen français et en tant que magistrat français dans des colonies africaines. Donc, c'est déjà une situation comme ça assez particulière. Et il arrive avec une femme blanche et des enfants métis. Donc, en fait, il détruit toutes les catégories raciales et sociales qui ont été mises en place par l'ordre colonial. Donc leur couple lui-même est subversif. Et ceux qui avaient le plus de mal à l'accepter, c'était effectivement les personnes blanches. Et ma grand-mère a été plusieurs fois stigmatisée comme une sorte de traîtresse à la race qui est en couple avec un noir, avec un africain. En revanche, de l'autre côté, du côté des Africains, c'était sans doute perçu comme un signe de réussite. C'est-à-dire non seulement il a fait les études, il a eu les diplômes, mais il a eu aussi la femme blanche.
Ça n'a pas changé. Hein. Mais c'est vrai que c'est intéressant parce que du coup, dans ce qu'il était avec la configuration coloniale qui reposait sur un préjugé racial, sur un présupposé racial, il venait, comme tu le dis, détruire cette conception et cette naturalisation de la domination blanche où des gens en fait avaient investi cette identité blanche pour justifier d'un statut de domination. Lui venait non seulement en étant magistrat, mais en plus en ayant une famille composite de ce point de vue-là.
Et en plus, donc, son métier, c'était de juger, donc de faire appliquer la loi, parfois de sanctionner, donc de mettre en prison, et qui allait devant les tribunaux français, c'était majoritairement donc des Français, des citoyens français, majoritairement des personnes blanches. Donc effectivement, pour eux, c'était double peine, c'est-à-dire s'ils étaient condamnés, en plus, ils étaient condamnés par un noir, par un africain.
Le fameux racisme anti-blanc.
C'est ça, l'origine.
Alors, tu as été élevé par ta tante et son époux. T'as baigné dans des cercles extrêmement bourgeois et pourtant tu n'as pas été épargné par le racisme. Dans ton film, tu fais intervenir à l'écran des membres d'un club de gentlemen de Pau composé de notables de la ville dont ton père faisait partie. On ressent un certain malaise dans l'échange. Et justement, cette question de le fait de parler directement de manière directe de la question raciale provoque en tout cas un inconfort. Et est-ce que tu l'as souvent ressenti? Et est-ce que tu as essayé ou est-ce que tu as eu la volonté, quand tu étais plus jeune, de faire bouger la conversation sur le terrain de cette question-là, du racisme ou de ta position ?
Ce n'était pas un sujet et je pense que moi-même, j'étais en élaboration de mon identité. Donc, je n'avais pas les outils à l'époque pour penser ma place et aussi cette articulation classe-race. Il y avait cette idée que le travail, l'éducation, un certain capital culturel et social vous faisaient appartenir de fait à une certaine classe sociale. Et ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que dans des milieux bourgeois, l'éducation est extrêmement privilégiée. Et donc, c'est un espèce de critère comme ça, de repère d'appartenance ou non. Et donc, on va scanner d'une certaine façon si vous avez les codes du milieu. Si vous les avez, vous êtes parfaitement accepté. Parce que, encore une fois, la reconnaissance, elle se fait avant tout sur la classe. Après, effectivement, avec le recul, ce que je peux interroger, c'est ces codes, quels sont-ils ? Par qui sont-ils définis ? Qui les a établis ? Et effectivement, ce sont les codes de la bourgeoisie blanche traditionnelle qui le pose comme allant de soi et comme un universalisme. Et donc, il faut entrer dans ces chaussures-là. Et en réalité, si vous essayez d'amener une autre partie de vous-même, la partie aussi qui vous constitue et qui, donc, dans mon cas, est liée à l'africanité, je ne suis pas sûre qu'il y ait de la place pour ça, pour dire les choses diplomatiquement.
La race, les questions raciales, les questions identitaires en viennent à écraser les différences de classe. C'est bien ça ? Elle est là, votre inquiétude ?
Oui, quoi, notre inquiétude, oui, c'est exactement ça. Ça résume bien une partie du propos du livre. Moi, je réagirais pour prolonger l'intervention de Gérard Noiriel sur le fait que je suis enseignant, je lis des mémoires de maîtrise, de master, je lis des thèses, je regarde les sujets de recherche des uns des autres, et je vois que cette question dite raciale commence à prendre une place très importante.
Alors, c'est un extrait de la matinale de France Inter qui a été diffusée le 4 février dernier. Les invités sont Stéphane Beau, qui est sociologue, et Gérard Noiriel, qui est historien, qui viennent de faire paraître un livre, justement, qui s'inquiète du fait de voir la question raciale prendre autant d'espace dans la recherche universitaire et dans le débat médiatique. Eux sont convaincus que la question de la classe au sens socio-économique, parce qu'on peut considérer en réalité que le groupe racial est une classe, devrait être au centre. Alors, je précise, je pense que c'est important de le dire, qu'il s'agit de deux hommes blancs. Et je pense que leur perception du sujet n'est pas complètement détachée de cette condition raciale.
Oui, et ils disent dans cet extrait, juste un peu avant, on ne l'a pas pris, mais ils disent « ça peut froisser des gens qu'on pense ça, mais c'est... » En fait, ce n'est pas une question de froisser les gens. Enfin, moi, je ne suis pas du tout froissée. mais je trouve ça assez édifiant que ces chercheurs m'expliquent que parmi les facteurs sociaux qui me caractérisent, il y en est un prédominant dans n'importe quelle circonstance. Et c'est bien ça qui m'interroge, parce que je vois bien qu'il y a des milieux où je suis d'abord perçue comme une femme. À d'autres moments de ma vie, je suis perçue comme une personne asiatique. D'autres fois, on reconnaît en moi que je proviens de telle classe sociale parce que j'ai telle éducation ou que je m'exprime d'une telle manière. Il y a une grande complexité dans la manière dont on vit la race et le genre et la classe et d'autres facteurs. En tout cas, je pense pas que ce soit... aussi simple.
Et puis, il y a un papier qui est paru dans Mediapart cette semaine qui disait qu'en France, les recherches sur la question raciale, en réalité, restaient marginales. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment de leur part de voir cette question prendre un très grand espace dans la recherche, mais en réalité, statistiquement, c'est une recherche qui reste très, très minoritaire dans les sciences sociales. Et le papier est très intéressant, montre que c'est pas du tout... en tout cas, ce qu'ils avaient l'air de dire dans l'entretien ne correspond pas à une réalité objective. Et c'est vrai qu'en fait, moi, ce qui me pose problème, c'est vraiment d'entendre... En fait, de croire que ces deux facteurs, ces deux caractères, la classe et la race, interagissent de manière complètement indépendante l'une de l'autre. On a reçu ici Rachel Keke, qui est la porte-parole des grévistes, donc de femmes de chambre de l'hôtel Ibis. Alors effectivement, c'est une femme de chambre d'un hôtel, donc elle appartient à une catégorie sociale qui n'est pas favorisée, mais ce sont aussi des femmes non seulement noires, mais africaines, immigrées, et dans leurs conditions de discrimination, tout ça joue de concert, et on ne peut pas se dire « ah ben non, c'est juste leur classe ». Bah, si c'est juste leur classe, Sauf que comme par hasard, elles sont toutes noires, africaines, immigrées. Et elle est d'origine ivoirienne, mais elles sont originaires de toute l'Afrique, enfin de tout le continent.
Mais cette question de la prédominance de la classe, c'est quelque chose qui revient très souvent dans les discours dominants. Et cette idée aussi que, et c'est ce que disent ces chercheurs en sciences sociales, ils disent que la race écraserait, la classe, pardon, écraserait justement tous les autres facteurs. Et quand je regarde ton parcours, Isabelle, et ce que tu nous expliques, on voit bien que la race interagit différemment avec les autres facteurs qui te caractérisent. Par exemple, tu dis « je vis d'autres formes d'assignation, c'est subtil ». Quand j'amène mes enfants au foot, je suis leur mère. Au conservatoire de musique, on me prend pour leur nounou. On trouve naturel qu'il y ait des Noirs dans certains endroits, et dans d'autres, non, c'est le racisme socio-racial. Donc, c'est dans une interview que tu as donnée à Marie-Claire à l'été 2020.
Après le meurtre de Jay Flood.
Et tu dis, aujourd'hui, il y a des égéries noires. Je montre à mes enfants, depuis qu'ils sont petits, des rôles modèles noirs et métis. Malgré ça, ils me disent, ça aurait été bien si on était blancs. Donc, on voit bien dans ce que tu exprimes, tes enfants, je trouve ça en plus très poignant, parce qu'on a toutes vécu, enfin, tout le monde en tant que mère, j'ai vécu cette idée de « je suis une nounou ». Parce que, voilà, ils sont avec une personne... alors, toi, tu es une personne noire, moi, je suis une personne asiatique. Il y a aussi des nounous asiatiques. Et dans certains milieux, eh bien, j'étais peut-être d'abord la nounou avant d'être mère. Et je trouve que d'enlever à une femme qui est la mère de ses enfants cette possibilité d'être mère de facto, parce que c'est quand même la première chose quand tu vois une femme avec des enfants, peut-être la première chose à laquelle tu penses, c'est quand même c'est sûrement leur mère. Enfin, ensuite, il y a d'autres choses qui rentrent en compte. Mais le fait que ce ne soit pas la première réaction, ça m'interroge.
Et toi, comment tu vis justement ces débats sur le fait que...
C'est-à-dire, la question est vaste, la polémique entre chercheurs, elle touche à beaucoup de ramifications. L'exemple que tu donnes sur le fait, effectivement, qu'en tant que personne racisée, on peut être perçu comme la nounou de nos enfants, montre bien que la race a un effet de classe immédiat, et pour être plus précis, un effet de déclassement social. Donc la race, d'emblée, le fait d'être racisé, d'emblée dans le regard des personnes qui ne le sont pas, te déclasse socialement et t'assigne à la catégorie, on va dire, des dominés. Mais pourquoi ? Parce que la notion de race, elle s'établit quand les Espagnols et les Portugais colonisent les empires amérindiens en Amérique du Sud. Et à ce moment-là, ils font une différence. Effectivement, nous les Blancs, eux les Indiens. Les Indiens sont assignés à être serviles, à être une population servile qui va permettre donc aux colons européens d'exploiter les richesses. Et après, il y a toute la polémique, la controverse de Valladolid, où finalement l'Église catholique reconnaît une âme aux Indiens. Et on se dit, bon, donc
c'est
on ne peut plus...
C'était en 1551. Voilà.
Donc on ne peut plus faire d'eux des esclaves. Donc on va se tourner vers les Africains. Mais on voit bien que cette délimitation, cette démarcation raciale, elle se fait dans le but de pouvoir, sans problème de conscience, assigner une partie de l'humanité à un rôle servile de d'esclaves, de travailleurs, sans aucun droit. Et donc pendant longtemps, le mot nègre est synonyme d'esclave. Et cette logique-là, elle a perduré. Elle a perduré avec la colonisation. Là, on est allé chercher directement les richesses, mais on a mis en place le travail forcé. L'indigénat s'est basé sur le code noir. Donc, on s'est inspiré de ce qui avait été fait pour l'esclavage.
Donc, le code noir, qui est un texte juridique, a été rédigé en 1685 pour régir le statut des personnes réduites à l'esclavage.
Et donc, on voit bien qu'il y a une filiation. Et donc, il y a cette idée qu'on assigne à une partie de la population un statut inférieur, dominé, et on le fait sur une base qui est celle de la couleur de peau. Et donc, les conséquences aujourd'hui, c'est que quand vous n'êtes pas blanc, de façon assez spontanée, on vous met dans une position dominée. Et à l'inverse, le fait d'être blanc vous confère partout dans le monde, c'est quand même à noter, c'est que c'est universel. Quel que soit le continent, quel que soit le pays, le fait d'être blanc vous confère un supplément, un statut social plus élevé, plus prestigieux, une forme d'autorité, c'est-à-dire c'est un synonyme de pouvoir. Et donc, je pense que c'est extrêmement important d'en être conscient et de comprendre que, effectivement, la race fait classe.
Et surtout que, en fait, indépendamment de notre statut économique, la réalité, c'est que l'apparence raciale conditionne une forme de traitement qui n'a finalement pas nécessairement grand-chose à voir avec le capital économique qu'on puisse détenir.
Et je pense que par rapport au racisme anti-asiatique, le statut économique porte vraiment à confusion. Les gens ont du mal à reconnaître qu'il existe du racisme anti-asiatique parce que, dans leur esprit, les Chinois sont riches. Donc ça, c'est un autre cliché, mais moi, on m'a souvent dit « Oui, mais regarde la Chine maintenant, vous allez être première puissance mondiale. Donc, il n'y a pas de racisme. » C'est comme s'il y avait une corrélation complètement directe entre « Alors, vous êtes puissant, donc il n'y a pas de racisme. » Pourtant, quand il y a des bus de touristes chinois qui arrivent dans Paris, bon, plus aujourd'hui, évidemment, mais qui arrivaient dans des cercles comme les Galeries Lafayette ou c'est pour une expérience shopping inestimable, des personnes qui achètent des sacs, par exemple, que moi, je ne pourrais jamais m'offrir par dizaines, mais en termes de capital économique, ce sont des gens qui ont sûrement, qui en ont, hein, voilà. Et pourtant, ça ne les épargne pas de mépris culturel, de remarques, de micro-agressions, et même de mauvais traitements, parce qu'il y a des personnes qui ont été maltraitées en tant que clients dans ces temples du luxe. Donc, c'est détaché, en fait, de la race et de la classe, et ça n'a pas du tout, ça ne protège pas le fait d'avoir de l'argent, hélas. Ça ne protège pas du racisme.
Si ça devait être le cas, ça serait. Je veux dire, évidemment, on ne subit pas et on ne souffre pas de la même façon selon le capital économique et culturel qu'on a. Donc voilà, il faut aussi être honnête sur ça. Et donc, entre personnes racisées, oui, il y a des différences sociales et certains souffrent et sont encore plus affectés par le racisme et les effets du racisme du fait de leurs conditions sociales. Mais tout simplement, je pense qu'il est possible, et il est plus que temps, notamment au niveau de la recherche, d'articuler, de comprendre les deux et de comprendre comment les deux se renforcent l'un l'autre. Moi, ça m'avait frappé dans le documentaire d'une amie, Caroline Pochon, qui a fait un film sur les ouvriers des usines Renault. Ça s'appelle « Les hommes de Billancourt ». Et donc, notamment sur toute une période de grève dans les années 80. Et en fait, les anciens donc grévistes, des militants syndicalistes d'origine maghrébine, puisqu'un grand nombre d'ouvriers à l'époque venaient du Maghreb, et qui racontent comment ils se sont jetés dans ces luttes pour leur dignité, comment ils ont lutté aux côtés d'ouvriers français, et comment, au final, quand ils ont obtenu des choses, bah, eux ont moins reçu que les autres. Ils n'ont pas eu accès à des postes meilleurs. Ils n'ont pas eu accès aux perspectives de formation qu'on a offertes aux autres suite aux luttes. Et c'est des luttes qu'ils ont menées ensemble. Donc, même au sein du mouvement ouvrier, même au sein d'une classe sociale avec une identité aussi forte que la classe ouvrière, il y a eu des distinctions à cause de la race.
D'ailleurs, dans les années 80 que tu cites, il y avait d'autres mouvements sociaux au niveau des usines Talbot et des ouvriers en grande partie d'origine maghrébine avaient porté des revendications sociales à très très haut niveau et c'est les premiers exemples qu'on a recensé d'islamophobie officielle où Georges Marchais, qui était le secrétaire général du Parti communiste, à l'époque avait accusé ces ouvriers d'être manipulés par l'Iran et d'être d'une certaine manière, d'avoir des revendications en fait culturelles et religieuses. Donc ça montre bien que on peut aussi, parfois, quand il y a des revendications qui relèvent vraiment d'une catégorie sociale, les relire à l'aune d'une lecture, en fait, pour le coup, racialiste, parce qu'en fait, on n'arrive pas à interpréter un comportement syndicaliste tout à fait classique, parce que les personnes ne sont pas blanches. Donc, tout ça pour dire, en fait, qu'il faut vraiment considérer que la classe n'est pas la seule clé de lecture des dominations sociales, tout comme la question raciale ne peut pas être l'unique clé. Il faut vraiment les penser comme étant en interaction permanente. Et donc, pour aller plus loin sur ton parcours, il y a un moment de télévision qui t'a frappé, qui a eu lieu en 2010. Je propose qu'on écoute ce son.
Comme elle ne se parfume pas, elle avait mis du chamade et du fed de Moline, ça je m'en souviens. Et un jour, je lui ai dit, je l'appelais encore madame, qu'est-ce qui vous séduirait si on devait vous faire un parfum? Et elle m'a dit, J'aime le jasmin, la rose et le santal. Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin, ça...
Alors, pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours travaillé, mais enfin. Donc, c'était le 15 octobre 2010. Jean-Paul Guerlain, descendant du fondateur de la célèbre maison Guerlain, qui répondait aux questions d'Élise Lucet dans le journal de 13h de France 2. Et donc, il a été, suite à ça, condamné en 2012 par le tribunal correctionnel de Paris à une amende de 6 000 euros. Et il a été, enfin, la maison Guerlain s'est séparée de ses services. Ça a été un moment qui a été décisif dans ton engagement, Isabelle. Est-ce que tu peux nous en parler ?
Oui, c'est vrai que c'est à ce moment-là que, pour la première fois, je m'exprime publiquement sur ce que je ressens en tant que femme noire depuis plusieurs années en France. Une montée de la parole raciste, décomplexée, et sans finalement que ça n'entraîne beaucoup de réactions et avec très peu de condamnations publiques. Et donc c'est vrai qu'à ce moment-là, j'appelle à une action sur les réseaux qui va être très relayée, suivie, médiatisée, et qui va aussi montrer, et je pense que c'était surtout ça qui était important, que finalement, en tant que simple citoyen, on a la possibilité d'intervenir et même d'infléchir le débat public. Et c'est vrai que ça, je pense que ça a été, très modestement, mais ça a été un moment fondateur où les gens, les personnes racisées notamment, ont compris qu'en France, elles pouvaient s'emparer des réseaux pour mener une action antiraciste et que ça pouvait avoir de l'effet. Et donc après, c'est un mode opératoire qui ensuite a été repris et puis maintenant qui est amplifié avec toutes les plateformes comme change.org, etc. Et donc c'était important pour moi individuellement, et je pense que ça l'a été aussi pour beaucoup d'autres personnes, de pouvoir reprendre du pouvoir sur nous-mêmes et se dire qu'on n'avait pas à subir nécessairement ce que les médias, ce qui est dans les médias, et qu'on a cette capacité, effectivement, de pouvoir agir, réagir et changer la donne.
Parce que c'est, même si on a la bonne éducation, le bon code postal, les bons diplômes, il n'empêche que ce qui se passe à la télévision et dans l'espace public qui nous entoure tous et toutes, on est affecté par ce qui se dit et par les idées qui sont véhiculées. Et il y a deux problèmes. Il y a non seulement le fait de proférer sur une chaîne nationale à une grande écoute ce genre de propos. Donc ça a été condamné pour injure raciale, donc ça a été considéré par la justice française comme une injure. Il y a aussi la réaction, ce que tu dis dans l'absence de réaction médiatique, ça en dit autant que déjà le rire de la journaliste, quand Jean-Paul Guerlain dit ce qu'il dit, ça fait presque aussi mal finalement que ce qui est dit. Donc ensuite cette personne, Élise Lucet, la journaliste, s'est défendue en disant qu'elle n'avait pas entendu les propos de cet homme-là. Il y a des journalistes qui se sont exprimés sur la question, alors il y avait... notamment deux journalistes noirs, donc Harry Roselmack et Audrey Pulvar.
Qui avaient fait une chronique à ce sujet.
Et c'est quand même assez terrible que ce soit des personnes noires qui doivent... il n'y a que des personnes noires, en tout cas, qui ont immédiatement réagi à cette polémique.
Alors moi, j'ai juste un souvenir, parce que j'étais allée aux mobilisations. Donc il y avait des mobilisations, on s'était vu à l'époque avec Isabelle, tous les samedis devant la boutique Guerlain, ce qui a commencé à les inquiéter parce que ça a duré très longtemps et on s'approchait des fêtes. Et à chaque fois que des touristes passaient, mais qu'est-ce qui se passe ? Et on leur racontait, ils étaient horrifiés. Et moi, je me souviens que j'ai vu Cyril Hanouna passer, venir à une des manifs au tout début. Donc il y a quand même quelques personnalités qui ne sont pas forcément exprimées, mais qui sont venus aux mobilisations.
Et je voudrais aussi dire que ce qui nous intéresse, c'est les réactions au racisme et leur justification. Donc, M. Guerlain a quand même dit « J'ai voulu faire rigoler la journaliste pour sa défense. » Il a dit « J'ai voulu la faire rigoler. »
Elle a rigolé.
Et il dit « Donc, je présente toutes mes excuses à la communauté noire pour cette imbécilité. » Et encore une fois, on enlève le racisme. Quand on dit imbécilité, on parle d'ignorance. On dit « j'ai fait un truc,
un dérapage.
» C'était une mauvaise blague, en fait. Et il dit évidemment « je suis tout sauf raciste ».
racontant ses premières rencontres avec les Noirs américains qui, à la Libération, m'ont fait découvrir le chewing-gum et le Coca-Cola. Donc ça, c'est dans Huffington Post. C'est quand même assez terrible à chaque fois. Donc il y a le racisme et ensuite il y a la négation du racisme. Et il faut vivre avec, en fait, pour les personnes qui le prennent en pleine face.
Alors, en même temps, bon, c'était en 2010. Je pense que les choses ont heureusement évolué depuis. Qu'aujourd'hui, il devient quand même de plus en plus difficile de tenir avec autant d'ingénuité des propos aussi racistes. Les gens commencent quand même à comprendre que effectivement, ce n'est plus toléré et tolérable. Ceux qui le font sciemment avec des visées provocatrices, et les journalistes aussi sont de plus en plus conscients qu'ils ne peuvent pas laisser passer. Et surtout, grâce notamment au réseau, l'opinion publique ne laisse plus passer. Donc quand même, les choses avancent, les choses progressent. Et même si l'extrême droite se renforce, même si le débat est extrêmement clivé, moi, ce que je remarque, c'est que aujourd'hui, il devient de plus en plus possible de parler de race dans l'espace public et de pouvoir en parler avec nos propres termes. Ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc, c'est plutôt bon signe.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Comment devenir un ou une meilleure alliée de la lutte antiraciste? Comment se confronter à ses privilèges en tant que personne blanche? Chez Binge Audio Édition, on sort « Mécanique du privilège blanc », un livre d'éducation antiraciste pour proposer des outils concrets à toute personne qui souhaite se confronter à ses privilèges. Le livre est signé Estelle Depri, qui anime depuis des années la page Instagram « Semblant de rien », sur laquelle elle produit du contenu antiraciste qui permet à chacun et chacune de devenir un meilleur allié. Vous êtes déjà plus de 2000 à avoir précommandé. Grâce à vous, on a dépassé notre objectif. Il ne vous reste que quelques jours pour commander vous aussi votre exemplaire. Rendez-vous sur Ulule, ulule.com/mécanique-du-privilège-blanc ou sur le compte Instagram de Binge Audio Édition.
Isabelle, tu es aussi diplômée de la prestigieuse école de l'image, la FEMIS. Pendant 4 ans, tu étais la seule étudiante noire. Et quand tu as posé la question à la direction de l'école, on te voit le faire dans le documentaire, ces chiffres apparemment que tu évoques montrent qu'ils n'ont pas beaucoup évolué à l'époque de ton documentaire qui était en 2015. Est-ce que tu penses que les statistiques ethniques sont une solution pour permettre de mesurer et de compenser en fait ce genre d'inégalité?
Oui. Oui, je pense qu'effectivement, on a besoin d'avoir des chiffres précis, concrets, de façon à pouvoir apporter des réponses qui soient elles aussi précises et concrètes, et pas de rester juste dans un fantasme ou l'idée que finalement ça va pas si mal. En revanche, est-ce que ça a un effet de solution? Non, pas en soi. Si effectivement, aujourd'hui encore, parce que les chiffres n'ont pas tellement évolué, dans une grande école française, il y a aussi peu de personnes noires. Les causes premières, il faut les chercher effectivement dès la maternelle, parce que ça joue là. Ça joue sur, effectivement, la possibilité qu'ont des personnes qui appartiennent majoritairement à des classes populaires de pouvoir avoir une vie à la hauteur de leur talent, de leur potentiel, de leurs rêves. Et on sait aujourd'hui en France que la promesse républicaine de l'ascenseur social ne fonctionne pas et que c'est une terrible injustice. Je dirais aussi, au-delà, je pense que ça doit générer énormément d'amertume parce que c'est ce qu'on nous a vendu. On nous a dit « travaillez, travaillez bien ». La République vous fera une place et vous bénéficierez des fruits de votre travail. Et ce n'est pas vrai. Et on voit que tout au long de la chaîne scolaire et dès la maternelle, il y a des freins, il y a des biais, il y a des inégalités, il y a des problèmes d'orientation, voilà. Et donc, en bout de course, qu'est-ce que ça donne? Ça donne que, effectivement, les grandes écoles qui sont un des moyens de réussite sociale, ben, restent réservées, malgré tout, à une élite et reproduisent un entre-soi. Donc, il faut aller chercher vraiment aux racines. Moi, ça me fait mal au cœur parce que je me dis, du coup, on est jeune, on est noir, on est arabe, on est asiatique, on a des parents qui ne sont pas favorisés. Comment on se projette dans son avenir? Et pourquoi est-ce qu'il faudrait se battre 2 fois, 3 fois, 5 fois, 10 fois plus que les autres? Non. Et tout le monde n'a pas cette force-là. Et tout le monde n'a pas cette capacité-là. Et la promesse de notre société, c'est une promesse d'égalité et notamment d'égalité des chances d'où que l'on vienne. Elle doit être respectée.
Merci pour ce rappel des principes républicains.
Oui, tout à fait, à la base.
Donc c'est la fin de ce numéro de Kishtaras avec Isabelle Bonnic-Lavry, autrice et réalisatrice du livre et du film documentaire, tous deux intitulés « Trop noire pour être française ».
N'hésitez pas à nous faire part de vos opinions sur ce qu'on vient de dire. Je pense que vous serez nombreuses et nombreux à réagir. Alors, on a un Instagram, c'est @kiftaras. On a un Facebook, kiftaras. On a le hashtag kiftaras sur les réseaux sociaux comme Twitter. On a un compte Twitter, kiftaras. Et vous pouvez bien sûr nous écrire aussi à kiftaras@binge.audio et nous suivre sur les réseaux.
Kiftaras est un podcast produit par Binge Audio et réalisé par Adèle Itel Elmadani. Merci à Camille Rogache et à Naomi Titi pour l'édition. On se retrouve très vite pour une nouvelle plongée dans les questions raciales.
Merci Rokhaya.
Merci Grâce.
Merci Isabelle.
Merci à vous, à bientôt.
Want your most burning finance and investing questions answered? Here's a podcast you should be listening to, courtesy of Acast Recommends.
Are you ready for some personality in your personal finances? Hi, I'm Janice Torres Rodriguez, Latina money expert and host of the award-winning podcast, Yo Quiero Dinero. On this show, we're serving up POC-friendly personal finance knowledge, always with a side of sass. We're not talking about avocado toast and lattes on this show. We've got real, relatable personal finance knowledge that makes you feel seen, heard, and finally understood. Consider me your super cool, slightly risque, but always honest financial fairy godmother. Together, we'll tackle dinero in a fresh new way so you can finally become poderosa with your dinero. Check out our weekly podcast episodes at YoQuieroDineroPodcast.com or subscribe wherever you listen to podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.